Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver, numéro du Coq à l'âne 696, avec aujourd'hui autour de la table Michel Roussel, Jean-Claude Hérault, messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On attend normalement Jean Cointe qui devrait arriver dans un instant, et surtout notre invité qui est là, lui, bien sûr, bien à l'heure, c'est Philippe Ariano, directeur de la scène nationale La Passerelle, qui est aujourd'hui en quelque sorte, on peut le dire...
Je veux être un homme heureux.
Un homme heureux, évidemment. Pensez donc, comment ne le saurait-il pas avec ce week-end, 3 jours exceptionnels des arts de la rue à Gap. C'est donc tous dehors, enfin, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, Philippe.
Ah oui, c'est vrai que, et enfin, après 3 reports, 3 annulations, on peut faire ce festival et ça fait du bien.
Alors, nous enregistrons cette émission jeudi, la veille du début de l'événement. Et je dois dire que ça commence très fort avec ce jeudi soir, le lancement du festival qui se fera dans les jardins du centre diocésain avec un spectacle qui décoiffe. Je vais vous faire vite fait le pitch. Écoutez bien. Chers êtres vivants, c'est avec un immense honneur que nous vous invitons ce week-end de septembre 2070 à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l'Apocalypse. Est-ce que c'est l'avenir qu'imagine Philippe Ariano? Quelle idée d'ouvrir le festival avec ce pitch-là.
Oui, et puis surtout l'Apocalypse dans les jardins du diocèse. Bon, c'est un petit clin d'œil. Ben, en fait, parce que c'est une compagnie, Marzouk Machine, qui s'empare de ce sujet et de sujets très actualité, hein, sur les enjeux écologiques et la catastrophe en cours, on va le dire. Bon, il le traite de manière évidemment tragicomique, assez acide, mais ça y va. Hein. Par contre, c'est un très très beau spectacle.
C'est un spectacle qu'on verra donc jeudi soir et qu'on pourra voir
Jeudi soir, oui, la soirée pour un
c'est
peu
la soirée, invité, voilà.
Lancement festival, mais il rejoue 3 fois dans le week-end jusqu'à dimanche. Donc oui, c'est un spectacle qu'on pourra voir dans les jardins du diocèse et ça vaut son pesant d'or. Oui.
Alors, comment on fait? Parce qu'on peut poser la question, hein, et vous pouvez. Jeannot qui vient de nous rejoindre. Salut Jeannot, mais mets-toi au bon micro, mon petit lapin, parce que sinon on va pas t'entendre. On laisse Jeannot s'installer, voilà, il dit bonjour, il s'installe, il va mettre son casque sur ses oreilles, ses petites oreilles, il regarde sa montre, il est en retard, oui bien sûr il est en retard, et donc il met son casque et il va dire bonjour.
Bonjour micro.
Salut Jeannot. Oui, comment on fait pour faire une sélection pour les arts de rue comme ça? Est-ce qu'on passe plusieurs mois à tourner un petit peu partout en France pour voir les spectacles?
Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est comme la programmation de la scène nationale. Tous les spectacles sont programmés, sont des spectacles vus, choisis, triés, parce qu'on en voit beaucoup. Hein. Je dois avoir à peu près 150-200 spectacles par an. Donc il y a une vraie sélection pour maintenir ou trouver un équilibre de saveurs, de petites propositions plus intimistes, des choses un peu plus grand public, des choses un peu plus contemporaines, plus averties. Voilà. C'est tout un mix et ça se prépare longtemps à l'avance évidemment, et c'est des spectacles qu'on voit dans les grands festivals en France ou ailleurs.
Ouais. On va essayer de passer en revue un petit peu tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Alors, j'avais mis un point d'honneur à parler d'un spectacle qui s'appelle Transport Exceptionnel. Alors, c'est pas de chance, hein. C'est pas de chance parce que ce Transport Exceptionnel qui était un petit peu un clin d'œil, on va dire, au BTP.
Ça pourrait être ça, oui.
Eh ben, n'aura pas lieu.
Eh oui, non, malheureusement. Vous savez, dans chaque édition de festival, on essaie de mettre un spectacle référence des arts de la rue. C'était ce Transport Exceptionnel qui a tourné plus de 1000 fois dans le monde entier, mais vraiment qui est allé dans le monde entier et qui est un duo entre une pelleteuse, une vraie pelleteuse, hein, avec un danseur. Donc c'est absolument hallucinant. Enfin, on est autour de ce duo entre un peu la Belle et la Bête, hein, la chair et l'acier. Bon, c'est vraiment très très fort. Malheureusement, le godet de la pelleteuse a écrasé la main du danseur cet été.
Terrible.
C'est un spectacle à risque, très clairement. Il prend des risques, la pelleteuse tourne. Enfin voilà, c'est assez étonnant. Donc, on n'aura pas ce spectacle référence pour cette édition, mais on le réinvitera, j'espère, en mai 22, parce que ça va aussi son détour.
Sinon,
essayer de rouler une pelle au...
Ça arrivait avec le premier danseur, parce qu'il y avait un danseur qui faisait ce spectacle, il a fait plus de 800 représentations, il a passé, en fait, il a transmis à un autre danseur. Bon, lui, il a fait moins de représentations et il s'est déjà un peu blessé. Il s'est fait écraser la main, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la pelleteuse qui peut se retourner très très vite, soulever le danseur, le lâcher, s'arrêter à 5 cm avec les dents du godet.
C'est un truc de fou, ça.
C'est hyper bien réglé, mais bon, voilà.
Quelquefois,
il y a des imprévus et malheureusement.
Et là, il y en a eu un. C'est dommage, on aurait pu penser à un remplacement avec Jeannot. À la place d'une pelleteuse, on aurait pris un tracteur, Jeannot.
Oui, mais c'est beaucoup moins dangereux.
Oui, avec un tracteur.
Non, si tu te fais écraser par un tracteur, ça va pas être simple non plus.
Hein. C'est sûr que c'est définitif. Mais...
Alors, dans le panel de spectacles que tu vas proposer, il y a du classique. Parce que, c'est un classique revisité, on va dire. Voilà. Qui n'a pas étudié l'avare à l'école. On a tous étudié l'avare à l'école. Non,
ouais,
Jeannot?
Ouais. Oui.
Eh
oui,
Michel,
tout à fait, oui.
Voilà, on a tous fait ça.
On en voit autour de nous. Hein.
Voilà. Alors, je sais pas vous, mais.
Non, pas dans le studio.
Des avares. Ouais,
d'une façon générale.
Je parlais de. D'accord.
Des avares ou des tartuffes, d'ailleurs. Hein,
ouais.
On voit pas mal.
Oui, alors, je sais pas vous, mais moi, perso, j'étais pas fan de l'étude de ces classiques de la littérature. Hein. Je me souviens, un de mes premiers, d'ailleurs, vous allez essayer de vous souvenir de vos premiers. Moi, je me souviens d'un premier qui s'appelait Yvain ou le Chevalier au Lion. Je sais pas si vous savez, c'est Chrétien de Troyes qui avait donc écrit ça. Sinon, on peut parler de Gargantua, le Cid, oui. Andromaque, le Maladie.
Ça n'a rien à voir, c'est de la prose.
Oui, non, mais ce sont des classiques qu'on étudie à l'école. On était dans les petites classes.
Le Malade Imaginaire, là aussi, il y en a beaucoup.
On nous demandait, le prof qui nous demandait d'aller acheter le petit livre,
bah oui.
Voilà.
Ou Phèdre, hein.
Ou Phèdre, absolument. Candice, Horace.
L'école des femmes.
L'école des femmes, absolument. Vous gardez un bon souvenir, vous, messieurs, des classiques que vous avez étudiés à l'école? Est-ce que vous avez encore en souvenir quelques tirades? Vous savez, genre, « Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc vécu que pour cette infamie ?»
Tu as bien répété, Thierry.
Eh ben non, mais c'est le seul dont je me souvienne.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Voilà.
C'est l'avare, ça.
C'est l'avare.
Et oui, et vous avez des bribes de ce que vous avez
appris? Le petit chat est mort, mais quoi qu'elle. Nouvelle, nous sommes pas tous mortels.
Alors ça, c'était quoi, ça?
C'est l'école des femmes.
Ah, d'accord.
Ah, ça lui plaît, les femmes.
Michel?
Non, j'ai pas... Non, malheureusement.
Les femmes savantes aussi, c'est pareil. Y a eu...
Et toi, Philippe?
Les Molières, des souvenirs?
Des tirades comme ça qui te reviennent.
Je viens d'en donner une, non, oui. Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça, on en a quelques-unes.
Quand même. 500, mais en arrivant au port... Ou fume, je sais pas combien.
Oui, 5000. Par un heureux hasard.
Non, par un pont renfort.
Par un pont renfort, c'est ça, absolument.
Moi, j'ai reconnu.
Ah mais attention, non, j'ai peur.
Non,
mais
je
si.
Vais pas la dire.
Mais si.
C'est pas une tirade, mais c'est un président de la République qui avait dit que les promesses n'engagent que celles que ceux qui y croient.
Ah oui, non mais ça c'est pas dans un classique.
Ça pourrait être dans un Molière. Hein.
Ça pourrait être dans un Molière, absolument.
En cinquième, tu étudies traditionnellement les fourberies de Scapin aussi.
Aussi, ouais.
Ah oui.
Non mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le rapport au classique à l'école. Quand on est gamin, on se rend pas compte de l'importance de ces textes, en fait, finalement, ou peut-être le fait de comment on les traite, comment on les apprend, enfin, il y a une espèce d'obligation. Je trouve que c'est des textes qu'on découvre après, en fait, et qui résonnent totalement avec l'actualité. Et puis Molière, c'était quand même, par exemple, quelqu'un qui tapait sur le pouvoir, la religion, qui prenait des faits de société et qui s'en emparait. Et souvent traité de manière habile par les servants, les serviteurs. Bon, il y a tout un truc vraiment intéressant et on les redécouvre après. Hein. Et l'avare est un bon exemple.
Alors, justement, parlons de cet avare qui est quand même très étonnant. Non.
Oui, parce que c'est quatre comédiens en fait qui jouent tous les personnages de l'avare, donc ça s'appelle Avare, hein, d'après l'avare de Molière. Quatre comédiens et les rôles sont choisis par les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer Harpagon, Cléante, Marianne, et vraiment le public peut dire non mais moi je veux plus que tu sois Harpagon, je veux que tu sois Marianne, et les gens on s'en fiche aussi, tu vois, et donc ça dépote, c'est d'excellents comédiens, et ça je le dis parce que dans la rue c'est pas toujours le cas, mais là vraiment c'est une belle équipe, ça supporterait pas la médiocrité des comédiens, donc
oui,
ils sont excellents.
Il faut maîtriser tout le texte.
Ah bah ils connaissent tous le texte entièrement, donc voilà, ils peuvent vraiment jongler avec ça. Il y a vraiment une interactivité très intéressante avec le public et on entend quand même la pièce de Molière qui est l'histoire de Molière, hein, donc je vais peut-être pas la rappeler, mais en tout cas Cléante, si je peux peut-être le dire en deux mots, Cléante,
oui, bien sûr,
veut absolument épouser Marianne, mais Harpagon le père veut aussi épouser Marianne, donc ils essaient de monter un stratagème, Cléante avec la flèche, le serviteur, pour essayer de convaincre Harpagon de ne pas épouser cette Marianne qui lui est vouée. Donc voilà, tout un espèce de stratégie évidemment drôle chez Molière, qui est magnifiquement interprété par ces quatre comédiens. Vraiment, c'est étonnant. Moi, je l'ai vu au Festival d'Aurillac. Et bon, ça va être un des spectacles qui va attirer beaucoup les...
Franchement, on va se régaler.
Ah ouais,
en plus, on va se régaler. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que vous avez pris des risques parce que malheureusement, bon, heureusement, La situation sanitaire s'est améliorée. Oui. Bon, il y aura le pass sanitaire, il y aura le masque, d'accord, mais on va pouvoir quand même en profiter. Et on a aussi, je pense que globalement, on a tous besoin de se retrouver, d'avoir des relations humaines. On avait perdu ces relations. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, on appelle le présentiel. On en a besoin. Moi, je le vois dans mon activité professionnelle.
Bien sûr.
On est tous très heureux de se retrouver en réunion, en présentiel, même si on est masqué, même s'il y a le pass, même s'il y a un tas de contraintes.
Mais quoi. Tu sais, Jean-Claude, on a reçu pas beaucoup, très peu de retours des spectateurs en nous disant, par exemple, qu'ils comprenaient pas, pourquoi on résistait pas, agissait, passe sanitaire, etc. Et nous, moi, j'ai fait quelques réponses de temps en temps en disant, mais nous, notre résistance, elle est tous les jours, toute l'année, pour mettre des spectacles de qualité en face des publics, pour que les gens partagent des émotions communes, qu'on soit ensemble, que ça soit dans l'espace public, dans une salle, c'est tellement important de se retrouver face à la création, à l'art, et partager des émotions ensemble. Franchement, on a besoin de ça plus que tout aujourd'hui, particulièrement maintenant.
Et soutenir le spectacle vivant.
Et soutenir le spectacle vivant, parce que les artistes, les compagnies ont aussi pas mal dérouillé. Ouais. Voilà, il faut être là. Donc nous, on joue notre rôle et voilà, il y a le pass sanitaire. C'est pas la grande fête, le grand retrouvaille qu'on aurait rêvé, mais ça va être quand même une très très belle fête pour tout le monde.
Est-ce que tu crains éventuellement l'incursion des manifs pendant le spectacle? Parce que on le sait, hein, maintenant depuis plusieurs week-ends, il y a des manifs anti-pass et il y a 15 jours, ils en ont profité pour venir donc du côté de Gap Foire Expo, donc ils profitent de tous les événements pour pouvoir se faire voir. Tu crains ça ou pas?
Je t'avoue que je suis un poil inquiet, ce qui serait vraiment dommage. Après, je veux pas rentrer dans la polémique de savoir s'ils font bien ou pas, c'est simplement... Là, il y a des artistes qui veulent jouer, qui doivent jouer. Il y a des spectateurs qui veulent vraiment voir du spectacle. Pour les artistes, franchement, c'est un drame là de pas pouvoir jouer. Donc, je peux vous dire, toutes les compagnies, quand on a dit qu'on maintenait le festival, même avec le pass sanitaire, etc., mais ils étaient ravis. Donc, voilà, si les antipasses se mettent à gâcher la fête et en tous les cas la possibilité pour ces artistes-là, ces compagnies-là, qui en ont tellement besoin de jouer, ça va être un problème. Après,
et ça sera anti-productif de toute façon.
Espérons que la responsabilité l'emportera. Hein. Il faut avoir on peut avoir des avis différents. On est dans une démocratie. Mm-hmm. C'est tout à fait normal. Moi, ça me gêne pas. Mais à un moment, il faut respecter le travail des autres.
Je pense aussi. Ouais.
On va faire une halte dans le programme et parler du public qui se déplace pour voir les spectacles. Les spectacles en général, pas forcément dans la rue, mais par exemple à la passerelle. Est-ce difficile de déconnecter la jeune génération des tablettes, smartphones et autres objets de haute technologie pour leur faire toucher du doigt le vrai spectacle, hein, on en parlait, hein, spectacle vivant. On peut d'ailleurs mettre en opposition télévision et théâtre ou spectacle. On a l'impression qu'un des deux genres essaie d'élever le débat alors que l'autre le rabaisse très souvent en flattant le mauvais côté un peu voyeuriste du spectateur quand on voit la programmation de certaines émissions. D'ailleurs, ça fait un peu peur, sans ne citer que lui, Hanouna fait beaucoup de mal à la tête. Tout ce que le monde possède d'immondice se retrouve régulièrement sur son plateau. Et je ne parle pas des Marseillais en vacances, vous savez, ces émissions de télé-réalité, ces émissions qui sont assez affligeantes. Alors on argumente souvent en disant « Oui, mais après une journée de travail, on veut pas se prendre la tête, on veut regarder un truc léger. » Sauf que là, on n'est plus dans le léger, mais dans le super lourd. Hein. On en revient au fameux « temps de cerveau humain disponible ». Je sais pas si vous vous souvenez de cette expression formulée en 2004 par Patrick Lelay, président directeur général du groupe TF1. La formule était apparue dans un ouvrage d'un chef d'entreprise intitulé « Les dirigeants face au changement ». Et il conclut un développement autour de l'idée que pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible et que donc les émissions de télé aient pour vocation de susciter cette disponibilité par le divertissement, la détente et surtout pas apprendre autre chose aux gens qui sont devant la télé. Alors, est-ce que c'est compliqué de faire venir les gens vers le spectacle, vers le théâtre, vers le spectacle en général, le théâtre vivant?
Ah bah oui, c'est jamais facile pour personne de toute façon de pousser les portes d'un théâtre, hein, quel qu'on soit, d'où on vienne, ça dépend de l'éducation. Il y a des blocages très clairement, ou des inhibitions même, hein, pour des bonnes et mauvaises raisons. Il y a des gens qui ne viendront jamais au théâtre parce que il y a un espèce de mainstreaming énorme qui passe à la télé. Tu parlais d'émissions radio, etc., qui font que les gens ont l'impression que ce qu'on leur donne, c'est ce qu'il faut, c'est la création. Non, en fait. redire aux gens, nous, notre travail au quotidien, c'est de redire aux gens que dans ces théâtres, il y a des vrais trésors. C'est le cœur de la création en danse, en musique, en théâtre, en cirque. Et que les gens ne les verront jamais à la télé. Et c'est bien parce qu'ils ne les verront jamais à la télé qu'il faut aller dans ces théâtres. Donc, on convainc, mais on y en arrive. Il y a des gens, ça c'est par...
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut voir... En faisant la démarche d'aller vers le théâtre, on ne pourrait pas le voir à la télévision. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer.
C'est impossible. Un spectacle vivant, ça se ressent. Ça se ressent dans nos chairs, dans notre âme, dans notre tête, dans notre cœur. C'est quelque chose qui doit se passer en direct. Il y a une magie qui se passe dans les salles, entre le plateau et la salle. C'est, il y a une interaction, il y a quelque chose de vivant. C'est une espèce d'organisme vivant. Moi, je crois vraiment à ça, qu'on n'a pas devant la télé, même si on voit un bon film, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis, cette impression d'abord de voir des gens qui jouent devant nous, quand même. Ouais. Et puis d'être ensemble à partager une sorte de communauté de spectateurs un soir qui partagent des émotions ensemble, quelles que soient les catégories sociales, quel que soit l'âge de ces gens, à un moment donné, il se passe quelque chose de magique. Et j'allais dire que là, maintenant, avec toute cette privation depuis 18 mois, franchement, les artistes sont morts de faim, les spectateurs ont envie aussi de retrouver les salles, il va se passer quelque chose d'étonnant. Donc, c'est le moment pour les gens de venir pousser les portes de ce théâtre. Et puis, vous le savez, à la scène nationale, on est totalement pluridisciplinaire, il y a plein de choses à voir, il y en a pour tous les goûts. Et c'est notre mission.
Ouais.
Et en plus, avec des avantages tarifaires plutôt bien.
Ce que me disait Laurent, qui est acteur de théâtre, mon fils, c'est que, et il a joué, je crois, 35 fois son dernier spectacle cet été, il a fait des tournées.
Oui, à vélo, ouais.
Oui, il a
vélo
tourné,
et tout.
Il a tourné en vélo.
Il m'expliquait que c'était jamais
le même.
Pareil.
Ouais, jamais.
C'est ce qu'ils disent tous, hein.
C'est pour ça qu'on dit le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mise en scène. Un soir, c'est différent d'un autre. Très clairement. Et ça dépend aussi du public. Hein.
Voilà.
Je me souviens de Poiret et Serrault avec La Cage aux Folles dans les années 70. Je parle pas du film, je parle de la pièce de théâtre où ils expliquaient que d'une soirée sur l'autre, il pouvait y avoir jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure de plus d'une pièce.
Ah donc, avec l'improvisation de Serrault et compagnie.
Donc ça, devant un écran de télé, même si c'est intéressant des fois de voir des pièces, tout ça, devant un écran de télé, tu peux pas l'avoir, ça.
Non, c'est clair.
Parce que il n'y a pas cette relation.
Pour moi, ça fait exactement penser.
L'exemple le plus achevé, c'est quand même Pierre Dac et Francis Blanche. Leur sketch sur le Maharaja.
Ah oui, le fameux sketch.
La géométrie variable suivant le nombre de mousquis qu'ils ont absorbé avant, ça peut durer des heures.
Ouais, c'était surtout en fonction de ce qu'ils avaient absorbé, oui, effectivement.
Mais si tu veux faire une comparaison, en fait, te balader dans la nature, ça n'a rien à voir avec le fait d'un reportage sur les Hautes-Alpes.
Ouais.
Cela dit,
c'est quand même beau
mais c'est
de
cool.
le voir.
Mais
de y être, c'est encore mieux.
Mais dans le paysage, c'est encore mieux.
Oui, mais
c'est du vivant.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois quand même le niveau des émissions aujourd'hui, ah, je veux pas passer pour le vieux con, mais franchement,
non, mais
tu te dis comment tu peux faire venir des jeunes. Je vous ai fait un florilège.
Mais c'est mépriser les gens quand même, tu vois, à un certain moment.
Je vous ai fait un petit florilège.
Est-ce qu'on peut l'emporter, oui.
Est-ce qu'on peut
emporter.
Pourquoi tu veux emporter
comme ça.
Ah oui, tu peux l'emporter.
Merci. Allez.
Le petit florilège, un petit best-of de ce qu'on peut entendre dans ces fameuses émissions de télé-réalité. Écoutez bien.
Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Je connais le mot humour. U-M-O-U-R. Marre, voilà, d'être dans la même villa de mon ex. Il est là, rien que de l'entendre, je le supporte pas. Je peux plus me le voir en teinture. Je peux plus me le voir en teinture. Clairement, cette histoire, elle me fatigue. Du coup, je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final, voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux.
Direction le dentiste et on fait ça. Illico-Massias. Illico-Massias. C'est pas comme ça qu'on dit ? Illico-Massias.
C'est quoi les Antilles ? C'est Antilles ?
Ces gens qui viennent des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane.
Et t'as anti ça ? Doudou.
Oh putain. Je suis pas anti ça, je suis antillais, je viens de la Guadeloupe.
Ou comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar ?
Les Indiens ?
Genre, si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte ? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple ?
C'est un pays.
Mais genre, l'Égypte, c'est un pays ?
Oui.
Genre, je vais en France, je vais en Égypte.
Oui.
Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait.
Première guerre mondiale.
42, 45.
Et la deuxième, c'était en quelle année ?
Ben, 45 après, je sais pas, 46, je sais pas.
Ben, la première, c'est 39-45.
Et après,
la deuxième, c'est de 81 à 86.
Ah ouais, je crois que c'est ça, je sais plus.
Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas ?
Oui, je pense, oui.
Ah, moi, je pensais qu'il y en avait
moins de 2, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais tout, elle est là. Mais si la lune, elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France?
Mais elle est en France de 3 heures de décalage.
Bah moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible.
Ouais, la défaut de lune,
ça qui a florilège là.
La Terre est plate aussi.
Ouais, la Terre est plate.
Donc non, mais alors
c'est l'esprit qui est plat.
Alors effectivement, vous allez me dire ouais, mais c'est rigolo. Eh, c'est rigolo quand tu le prends nous au 12e degré, mais ceux qui peuvent le prendre au premier degré, c'est compliqué quoi.
Ah, c'est
et donc c'est très compliqué de proposer, d'essayer de proposer quelque chose, une vraie culture, et d'un autre côté, on a le sentiment qu'il y a la télé qui est derrière et qui casse et qui sabre quoi.
Mais ça, tu vois, ça nous aide pas clairement. Moi, le florilège est quand même
et costaud. Hein.
Et costaud quand même, mais de manière générale, ça nous aide pas, parce que tu parlais tout à l'heure de pensée, de cerveau disponible, etc., si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, dans la société, il y a quand même un grand problème. C'est que de penser devient une espèce d'injure ou un truc à ne pas faire. On peut penser, on a un cerveau pour ça, avoir des réflexions sur les choses, s'intéresser, avoir une curiosité sans que ce soit prise de tête. Un enrichissement personnel sur des informations, sur un sujet. C'est génial, on le sait tous. Quand on apprend quelque chose, on est mieux, on est bien. Et ben, le spectacle vivant, c'est pareil. Ça parle de société, les acteurs parlent de nous en permanence. Donc, voilà, c'est des clés de lecture sur le monde qui nous entoure, et on en a besoin.
Et puis, c'est quand même la force de notre pays, la France. La France, c'est le cœur du spectacle
bien
vivant.
Sûr, bien sûr.
Ça va avec la démocratie, ça va avec les règles républicaines, ça va avec tout ça, quoi.
Mais ça va avec l'esprit français qui a toujours été.
Oui, les dérives de
l'esprit latin, d'ailleurs.
Bien sûr.
Les Romains avaient tout un panel de réjouissances aussi, en particulier au niveau de la farce, ce qu'on appelait la farce, la grosse comédie, enfin, avec tiré par des bouts de ficelle. Et puis c'est vrai qu'on a hérité de tout ça. Et puis c'est vrai que l'esprit français, grâce à des gens, des génies comme Molière, s'est vraiment développé.
Bien sûr.
C'est vrai que on a une façon de caricaturer les choses qui est bien propre à nous. D'ailleurs, il y a qu'à voir ce journal qui s'appelle Le Canard Enchaîné, il n'y en a pas d'équivalent. Hein.
Non, c'est vrai.